Mais vous savez qu'Yvette est la reine de l'accordéon et du pop-corn.
Popcorn, popcorn, déjeuner.
Смотрю на вращение земли, желтеет восток в ультрасиней пыли. Камнем во тьму пролетел метеор, я ответил прием и согнул Беломор. Я космонавт Петров.
On vient d'entendre Cosmonaute Petrov des Red Elvis, donc c'est une chanson sur un cosmonaute, pour introduire notre thème du jour, donc qui sera entre autres, à part les fictions de la Terre 2 comme la dernière fois, un petit peu tout ce qui va avoir trait à l'âge nucléaire, à la guerre froide et aux chansons de cette époque-là, donc un petit peu les années 60-70 quand les blocs se faisaient la guerre et que le monde était gris, que Gilbert Bécaud chantait Nathalie, et ça me permet de revenir un petit peu sur l'émission 6.01, donc que quelques courageux ont quand même écouté malgré mes avertissements et malgré le fait que je vous ai quand même prévenu que c'était vraiment 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 très très compliqué à écouter, ce qui est dommage parce que le contenu de cette émission était très chouette, mais la technique a subi une sorte de véritable apocalypse. C'était les heures les plus sombres de la radio, je pense qu'on peut le dire. Voilà, donc retour à la normale aujourd'hui. On a fait plein de tests avec mes invités du jour, Framboise et Nicolas. Donc déjà Framboise, est-ce que tu t'es remis de ce qui s'est passé la dernière fois? Est-ce que la réécoute du fichier ne t'a pas fait exploser les oreilles?
Oui, c'était une petite épreuve, j'ai dû l'écouter en plusieurs fois.
Oui, c'était déjà... Je n'avais pas mis de mémoire tampon dans mon logiciel, ce qui fait qu'au lieu de faire un grand fichier son, ça en faisait plein de tout petits que je devais coller les uns aux autres. J'ai passé 9 heures à faire du montage. J'ai décidé de le publier quand même par respect pour les gens qui étaient là, mais c'était vraiment difficile. Donc merci de faire confiance à nouveau à Calvin Ball et de revenir chroniquer dans l'émission. Je t'en remercie beaucoup. Et aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui a déjà été dans Calvin Ball également, qui est Nicolas. Bonjour, soir Nicolas, je ne sais pas quel... C'est l'hiver, hein, donc le soleil se couche tôt.
Comment c'est déjà nuit, donc on peut dire bonsoir.
On peut tout à fait dire bonsoir. Comment ça va-t-il, tu ?
Bah écoute, ça va, donc je suis content de revenir, je suis content d'avoir été reconduit.
Bah voilà, en venant deuxième semaine. De toute façon, quand il y a toi ou Muriel, de toute façon, il y a des problèmes techniques, donc on va essayer de briser la malédiction aujourd'hui, tu vois. Ça... la première fois, c'était de votre faute, la deuxième fois, c'était de la mienne, donc voilà. Maintenant, c'est peut-être Framboise qui va tout faire exploser, on ne sait pas encore. Comme je vous connais déjà et comme on vous connaît déjà, je vais chacun à votre tour vous passer la parole déjà pour faire ce qu'on fait d'habitude à la fin des podcasts, c'est-à-dire dire si vous avez des actus et présenter des trucs que vous avez lus, vus, sus, joués récemment qui vous ont marqué. Donc Framboise, vas-y, je t'en prie. Quels sont tes actus ?
Oui, bonjour. C'est vrai que la dernière fois, j'avais pas parlé du blog que je tiens avec une amie qui s'appelle Imaginons, avec un Y après le G.
Ah oui, très 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 bon
et
blog.
On parle des thématiques féministes ou LGBT dans les animés, les BD, les œuvres littéraires. Et j'ai récemment écrit par exemple quelque chose sur le matriarcat dans la fiction.
Oui, c'était un très bon article, c'était super intéressant.
Et en avant-première, et peut-être que bientôt il y aura quelque chose sur le carnosexisme dans les animés de cuisine.
Le carnosexisme, est-ce que tu peux me définir à peu près ce que tu entends par là ?
Le carnosexisme, c'est une théorie comme quoi il y a des très gros liens entre la consommation de viande l'objectification de la femme comme élément sexuel.
Écoute, je lirai ça avec attention, ce sera sans doute plus intéressant que la saison 3 de Food Wars, si tu veux mon avis. Même si ça ne manque pas de sel de voir un mec gagner des compétitions internationales de cuisine avec des kebabs.
Bah, ça sera basé sur Food Wars notamment.
J'imagine, hein, animé de cuisine 2017, c'est un petit peu l'incontournable. C'est marrant d'ailleurs Food Wars parce qu'indépendamment des thématiques que tu souhaites aborder, je trouve qu'il y a ce côté, c'est de saison en saison, c'est vraiment une fusée qui se crache, c'est-à-dire qu'elle passe, ça part de très très haut Food Wars en termes de qualité, de rythme, etc. Et petit à petit, on sent que ça rentre dans l'atmosphère, que ça commence à prendre feu. Là, on voit que ça va bientôt se cracher, il y a un côté un peu triste. Donc je sais pas du tout si le manga dont c'est tiré, que je n'ai pas lu, suit exactement la même trajectoire, mais c'est vraiment de moins en moins bien, hein. On est parti d'un truc hyper bien animé qui parlait vraiment de cuisine hyper inventive. Maintenant on en est presque à un mec qui fait des diapositives pour montrer un gars qui gagne des compètes avec des kebabs pourris, quoi.
Il y a quand même des twists basés sur le ketchup.
Ouais, voilà. Ah oui, non mais moi j'ai vaincu le méchant parce que j'ai mis du ketchup dans mon poulet, sans déconner, quoi. Même dans un des derniers épisodes qui a été diffusé, je suis désolé, je m'enflamme sur Food Wars parce que j'ai pas souvent l'occasion d'en parler. Il met je sais plus quoi dans son plat là, dans son poulet pourri. Mais le pot qu'on te montre, c'est genre les pots qu'on te vend à Lidl, quoi. C'est du parmesan. Il met du parmesan. Mais c'est même pas du parmesan frais qu'il a tiré du frigo, c'est genre du parmesan en poudre, quoi. Et là, tous les jurys sont éberlués, ils se roulent par terre parce que le mec, il a foutu du parmesan en poudre sur du poulet, quoi. Je veux dire, c'est dégueulasse le poulet au parmesan. Enfin, personne ferait ça, quoi. Bref, Food Wars. Tu peux rappeler du coup le nom de ton blog parce que je me suis enflammé du coup.
C'est le collectif Imaginons avec un Y à la place du G. Et je voudrais aussi faire de la pub pour une émission de radio dans laquelle j'interviens de temps en temps, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jean Rage. Une émission de radio féministe sur la métropole lilloise. Et ça s'est diffusé un dimanche par mois à 14h et c'est 99.9 Radio Vauban, voilà.
Est-ce que c'est podcastable ?
Oui, sur leur site.
D'accord.
Genrage, G-E-N-R-A-G-E.
Eh bien écoute, on écoutera ça avec la plus grande attention. La plus grande intention, ça ne veut rien dire. On écoutera ça avec la plus grande attention. Nicolas.
D'avoir l'intention d'avoir de l'attention.
C'est exactement ça. Nicolas, est-ce que toi tu as une actu particulière ou est-ce que tu as lu ou vu des trucs qui t'ont intéressé récemment ?
J'ai pas eu trop le temps d'écrire sur Focus ces derniers jours. J'ai été assez.
Accaparé.
Accaparé et à la fois stupéfait quand j'ai appris toutes les horreurs qui se passent chez Pixar en ce moment.
Qu'est-ce qui se passe chez Pixar ? Sur
le harcèlement lié à John Lasseter.
Ah oui, bien sûr. Ouh là là, oui.
Qui sont horribles. Muriel va s'occuper de faire un édito sur Focus là-dessus et sur les histoires de harcèlement dans l'animation qui sont tombées aux États-Unis. On attend de voir ce qui va se passer en France avec l'effet de
Oui.
En espérant que si les prédateurs sont inclinés et tombent tout simplement, quoi.
Oui.
Donc après, c'est toujours un peu délicat comme sujet. Moi, c'est problématique parce que je suis un homme, je suis pas forcément la meilleure personne pour en parler. Muriel a a vu tout ce qui s'est passé parce qu'elle était plutôt branchée sur l'aide à ce moment-là. Et du coup, elle va s'occuper de faire un édito là-dessus. Elle est très en lien avec des créatrices dans l'animation. Elle peut poser des questions. Elle est préoccupée par la chose et elle est beaucoup plus branchée que moi là-dessus à l'heure actuelle. Donc c'est toujours pareil. Je préfère dans ces cas-là que la personne la plus apte en parle. Je trouve ça de toute façon important que ce soit la personne la plus apte qui en parle.
Oui, je suis d'accord de mettre en avant les personnes concernées. Mais Focus, c'est quoi alors? C'est un site collaboratif.
Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je fasse la petite présentation de Focus, effectivement, parce que tu n'as pas forcément écouté les premières émissions. Alors, Focus Animation, c'est un site généraliste qui parle de l'animation. On est plusieurs. On doit être à l'heure actuelle 2 garçons et 4 filles à en parler. En fait, on traite à peu près toute l'animation qui nous intéresse. Ça va de l'animation américaine à l'animation japonaise à l'animation coréenne. Chacun parle plus ou moins de ce qu'il aime, même des fois va explorer ce qu'il connaît moins. C'est vraiment un site généraliste, quoi. On essaye d'être un peu plus complet éditorialement en proposant des interviews de créatrices, de créateurs d'animation. On essaye de parler de la série télé autant que du cinéma, des courts-métrages autant que des longs-métrages. On essaye d'avoir un petit coup de complet comme ça. De pas uniquement se brancher sur l'esthétique, mais aussi parler du fond, au travers de certaines de nos critiques. Donc voilà, on essaye de faire au mieux en fait.
Est-ce que vous parlez des gens qui se poignardent dans des files d'attente pour avoir de la sauce Sichuan?
Ah, ça c'est horrible.
Je pense que franchement, on en a eu un des horreurs cette année, mais indépendamment des histoires de harcèlement et tout, je pense que c'était un des trucs les pires que j'ai vu. Il n'y a pas grand chose qui peuvent me faire perdre foi dans les gens, mais la fanbase de Rick and Morty, qui est pourtant une série que j'adore, elle a failli réussir.
Ah, mais la notion de fan toxique depuis l'explosion de Tumblr, notamment, ça existait avant ça. Hein. Il y a eu des fans toxiques à l'époque de Star Trek. Hein,
oui, non, mais.
Sacré connard.
L'époque de Claude François, hein, depuis, les fans qui cassent les fauteuils, tout ça. Quoi.
Mais ouais, c'est clair que depuis qu'on a cette espèce de manière de communiquer qui est instantanée, qu'est-ce qu'on voit comme con et qu'est-ce qu'ils sont mis en avant aussi, l'air de rien.
C'est
un problème.
Peut-être qu'il faudra qu'on en passe par une maturité. Peut-être qu'il faudra un permis pour regarder des choses au bout d'un moment.
Peut-être un permis aussi pour s'exprimer dessus.
Peut-être. peut-être que la fin de la neutralité du net. si c'était basé sur l'intelligence et pas sur l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Non. Et voilà, je viens d'inventer le fascisme. Donc je vais arrêter
c'est
de faire ça.
C'est horrible. Il y a beaucoup de fans qui sont cons. Et les fans toxiques, c'est même pas. Il y a des fans qui sont pas forcément bêtes, mais il y en a qui sont très très toxiques. Je sais que sur Steven Universe, par exemple, il va sans fin assez horrible sur les notions. Qui sont abordés par la série, et c'est assez fou de fermer autant quelque chose qui est aussi ouvert. En fait.
Alors que quand tu prends les fans de mecha francophones, enfin tu vois les fans francophones de mecha, au moins il n'y a pas d'ambiguïté, c'est tous des fachos, donc tu vois ils avancent pas masqués. ce n'est pas vrai, ne le prenez pas mal.
Tu m'apprends des choses.
Indépendamment de la blague, c'est vrai qu'il y a ce côté chez les mécaphiles francophones, ils ont cette réputation là en tout cas d'être un peu des bourrins et pas forcément très progressistes dans l'esprit, quoi. Bref, avant qu'on se lance, moi je voudrais quand même revenir un petit peu sur mes activités à moi rapidement. Je dirais que un des rares trucs dont je suis fier récemment, c'est certainement pas l'épisode précédent de Calvin Ball, mais c'est un article que j'ai fait sur le site thepixelpost.com consacré à Bubsy, puisqu'on en parlait un petit peu la dernière fois. Puisque vous n'êtes pas sans savoir, si vous suivez un peu l'actualité du jeu vidéo, que un peu comme partout, il y a beaucoup de remakes, il y a beaucoup de reboots et on va rechercher des vieilles licences pour refaire vivre des vieilles gloires. Puis dedans, il y a des accidents de parcours comme Bubsy, quoi, qui était une horrible mascotte. J'ai appris récemment que c'était même pas un chat, en fait, c'est une sorte de fennec avec un t-shirt qui était supposé concurrencer Sonic dans les années 90. Donc c'est un Fennec qui se bat contre des extraterrestres qui ressemblent à des poulets qui lui ont volé ses boules de laine. Donc il y a eu plusieurs jeux Bubsy dans les années 90 et il faut savoir qu'en fait cette franchise, bah, elle a une histoire hyper tragique parce que c'était déjà mal parti dès le départ, c'est-à-dire que les gens qui ont créé Bubsy, c'est des gens qui venaient de la fiction textuelle des années 70 sur PC qui ont essayé de devenir cool dans les années 90, sauf que c'était déjà des gens qui avaient 45-50 ans, qui n'avaient aucune idée de ce qui était cool, donc c'était pas cool. Et très très vite ça s'est effondré sur soi-même, la série a fini par donner un des pires trucs qui ait jamais été fait en termes de jeu 3D. Puis au fur et à mesure des ans, ça a été complètement oublié, ça a été revendu, puis re-revendu, puis re-revendu, les droits sont passés par 15 ou 20 personnes, et aujourd'hui ça a fini par atterrir dans le portefeuille d'hommes d'affaires chinois qui emploient des très mauvaises sociétés japonaises, en gros, pour faire des très mauvaises sociétés autrichiennes qui font du shitware, quoi, enfin des très mauvais jeux vidéo, pour inonder les stores avec des noms qui évoquent vaguement quelque chose aux trentenaires qui jouaient à ces jeux-là quand il y a une vingtaine d'années. Donc voilà, j'ai fait un article qui s'appelle Le cimetière des mascottes, que vous pouvez retrouver sur thepixelpost.com, qui retrace un peu la triste histoire de Bubsy le Fennec. Parce que sans surprise, le jeu qui vient de sortir est une merde. C'est horrible. Y a pourtant des gens relativement talentueux qui ont travaillé dessus, mais je pense que le jeu a été... Le jeu a été torché, je pense, en 4 mois, puisque entre la date de son annonce et sa sortie, il y a genre 3 mois et demi, et ça se voit, il se finit en 2 heures, et malgré tout, c'est une des expériences les plus déplaisantes de l'année en termes de jeux vidéo. Donc, et aux dernières nouvelles, il s'en est vendu 1000 ou 2000, ce qui est une catastrophe industrielle. Enfin, voilà, c'est probablement un...
Ça dépend combien il a coûté, non?
Je pense qu'il a vraiment rien coûté à faire, mais que malgré tout... Il y a au moins eu un musicien qui a fait 4 ou 5 pistes, et je crois que c'est quelqu'un de relativement connu. Il y a quand même eu des équipes de Black Forest Game, quoi. Ils ont quand même été une dizaine à travailler sur le truc pendant 4 mois, donc ces gens-là, il a fallu les payer. C'est pas en vendant 2000 ou 3000 copies du jeu qu'ils ont dû rentrer dans leurs frais. Donc,
voilà. On va pas rembourser le plastique des boîtes de jeu.
Quoi. Ah, non, le jeu sort pas en boîte, tu rigoles, c'est du pur des maths. Enfin, je sais pas, il y a peut-être une édition boîte collector qui existe quelque part. Non, c'est du pur des maths, c'est pour avoir de la présence sur les stores type Google Games, etc. Et le jeu était soldé à moins 30%, je crois, 4 jours après sa sortie. Parce qu'il est quand même à 20 balles, quoi. Donc à 5 euros, ça les vaut pour la blague, pour dire j'ai joué au nouveau jeu Bubsy. À 20 euros, c'est absolument pas possible, quoi. C'est vraiment une catastrophe industrielle, quoi. Bref.
Mais j'ai beaucoup aimé aussi, hein. C'est vrai que c'est peut-être encore plus tragique, l'effondrement de quelque chose qui a jamais connu la gloire.
C'est exactement ça. C'est-à-dire c'est comme quelqu'un qui visait la première division en football et qui tombe en National 8 alors qu'il est même pas qu'il a même pas réussi à gagner un seul match, quoi. C'est-à-dire qu'on lui dit non, on te prend ton maillot, on te prend tes chaussures à crampons, tu rentres chez toi, tu vas faire du kebab au ketchup.
Est-ce que vous savez s'il y a une fanbase de Bubsy?
Un tout petit peu. C'est-à-dire qu'en fait, en enquêtant un petit peu là-dessus, j'essaie de voir les réactions qu'il y avait eu à l'annonce du fait qu'il allait avoir un nouveau Bubsy. Il y avait quelques personnes qui étaient relativement enthousiastes sur des forums, pas très nombreuses, mais c'est essentiellement des gens qui, à l'époque, avaient, comme moi à l'époque, beaucoup attendu Bubsy. Parce qu'il faut savoir que Bubsy, ça avait été une des franchises les plus survendues de l'histoire du jeu vidéo. C'est-à-dire qu'un an avant, il y avait des sprites de Bubsy partout dans les magazines de jeux vidéo. On te donnait des screenshots, on te disait que c'était le nouveau Sonic, c'était incroyable. Donc ça a été survendu. Et moi, Bubsy, c'était Day One. Hein. J'avais tanné ma mère pour l'avoir. Moi, c'était important d'avoir Bubsy quand ça sortait. J'avais un t-shirt Bubsy avec un transfert Bubsy que j'avais fait à l'époque. Après, passé 8 ans, enfin, quand j'ai eu 9 ans, ça m'a passé, si tu veux. Je suis passé à autre chose. J'ai même pas acheté Bubsy 2. Personne n'a acheté Bubsy 2. D'ailleurs, mais à l'époque je me suis convaincu que c'était un bon jeu, j'y ai joué des dizaines et des dizaines d'heures. J'avais pas de plaisir en y jouant parce que c'était pas terrible, mais je m'étais persuadé que c'était bien, et je pense qu'il y a quelques personnes encore nostalgiques de ça. Mais alors Bubsy The Woolly Strike Back, hein, qui est donc le cinquième épisode qui vient de sortir, ça va les calmer, quoi, c'est clair.
Le cinquième,
parce qu'il y a eu 2 épisodes sur SNES et Mega Drive, puis t'as eu un épisode sur Lynx. Souvenez-vous la lynx. Ouais, voilà. Non, mais c'est vraiment tragique. Hein. C'était une exclu lynx, quoi. Une lynx. Jaguar, une exclu jaguar. Mais c'est pire. C'est encore pire, quoi. Et après, il y a eu l'épisode 3D, ça fait 4, sur PlayStation, qui était un des jeux, pas de lancement de la PlayStation 1, mais pas loin, quoi. Et après, il y a Bubsy 5, quoi. Bubsy The Woolly Strike Back, qui est sorti en octobre dernier, quoi. Donc ouais, 5 jeux Bubsy quand même. Et un dessin animé qui n'a jamais vu le jour, et des comics qui n'ont jamais vu le jour non plus, qui sont restés à l'état de prototype. Bah, si vous voulez voir un petit peu toute cette tragédie-là, vous lisez mon article, et si vous voulez vous épargner ça, vous regardez juste le pilote de l'animé qui doit être disponible sur YouTube, vous tapez Bubsy animé et vous verrez, c'est là. Voilà, c'est les années 90.
Mais cet animé est sorti dans la Terre 2.
Hein. Oui, il est sorti dans la Terre 2, c'est un énorme succès. Ouais. Bon, je vais arrêter de parler de Bubsy parce que ça me déprime, moi, d'en reparler. Mais lisez l'article.
Je me demandais parce que. Voilà. Je sais pas vous, mais dans les rêves en général, il y a beaucoup de personnages secondaires ou tertiaires de la vie qui apparaissent.
Ouais.
Je me demande s'il n'y a pas beaucoup de gens qui rêvent de Bubsy à certains moments.
Probablement, c'est les mêmes gens qui travaillent, à mon avis, sur les gens de la Sonic Team qui continuent à inventer des shitty friends. Il faut savoir un truc, moi sur The Pixel Post, je suis un peu le spécialiste, bon, déjà d'une part des JRPG et d'autre part des mauvais jeux. C'est-à-dire que c'est moi qui demande tous les mauvais jeux en test parce que ça me
marche.
Mais j'ai une fascination pour ça en fait. Comment on fait les mauvais jeux? Pourquoi ils arrivent? Qui les fait, qui a eu l'idée de faire ça, et j'ai pas encore eu l'occasion de toucher à Sonic Forces, mais tout ce que j'en vois, ça me. J'ai envie quoi, j'ai envie de faire mon propre Shitty Friends, de pas réussir à contrôler le truc, j'ai hâte quoi. Bref, ça c'est mes kicks, hein,
chaque Mario Maker, quoi, mais en version.
Ouais, voilà, c'est Sonic Maker, mais M'apostrophe quoi. j'ai trouvé mon titre d'article pour The Pixel Post, Super Sonic Maker, ok. Bref. Désolé pour ce making-of en direct, je vous propose qu'on s'écoute une petite chanson, puis qu'après on retourne dans notre chère dimension parallèle que nous avons explorée la dernière fois, la Terre 2, une dimension parallèle mais voisine de la Terre, pour qu'on y parle un petit peu de ce qu'on y a vu. Et avant toute chose, on va s'écouter une petite musique. Nicolas, qu'est-ce que tu nous as ramené?
Donc oui, je vous ai ramené une piste de John Carpenter, donc qui s'appelle Vortex, c'est... évidemment du bon gros synthé, parce que John Carpenter, dans n'importe quelle terre, de n'importe quel univers, continue à faire du synthétiseur. Et c'est donc la piste d'un film dont je parlerai tout à l'heure, qui s'appelle Barbara vs. The Bomb.
Eh bien, on s'écoute ça de suite et on revient dans quelques minutes. Thank you. Et nous revoici dans Calvin Ball. On va partir pour la Terre 2, un univers parallèle très proche du nôtre que nous avions déjà commencé à explorer un petit peu la dernière fois. Et on va bien entendu commencer par parler des news qui se passent dans la Terre 2. Je crois que Nicolas, tu avais quelque chose à propos de l'identité de l'acteur Alain Souchon.
Tout à fait, gros scandale autour de l'acteur à rumeur persistante, comme quoi l'acteur s'appellerait en réalité Didier Barbolivien. Et en fait, cette information a été confirmée lors d'un Question Us Everything sur la plateforme Watch Out, où une célébrité interroge une communauté de fans. Et en fait, ici, celle de la communauté des fans d'Alain et les Souchon a été questionnée par le plus jeune acteur entré dans la comédie française, Ryan Benzetti. Et ils ont, par mégarde, avoué que Barbolivien était en fait Alain Souchon.
Oh là là, bah c'est tragique. Et je me demande si c'était effectivement confirmé, si en revoyant l'intégrale d'Alain et les Souchon, on pourrait pas avoir des informations qui donnaient des indices là-dessus.
Si, il me semble que dans les épisodes écrits par Daniel Mandrag, il y en a qui se passe en Bolivie dans un bar. Dans un bar bolivien,
oui, exactement. Bon, alors, c'est effectivement qu'une spéculation, mais je pense que ça vaudrait le coup qu'on se rematte la prochaine fois qu'on ira dans la Terre 2 cet épisode et qu'on voit s'il y a d'autres indices dans les épisodes précédents et suivants sur le fameux bar bolivien. En tout cas, c'est une bien triste affaire. Affaire un petit peu moins triste, si vous voulez bien, on va parler du célèbre comédien de stand-up Abdelaziz Bouteflika, qui brûle encore et toujours les planches. Bien qu'il soit mort depuis bientôt 4 ans, le grand acteur africain poursuit néanmoins sa tournée internationale en brocardant avec la subtilité qu'on lui connaît les travers du régime algérien. Il fait rire ainsi les petits et les grands lors d'une tournée absolument triomphale. Voilà près de 10 ans qu'il a été évincé du pouvoir, mais il a opéré une surprenante reconversion dans le domaine du théâtre et rencontré un tel succès critique que ses producteurs ont décidé de poursuivre envers et contre tout son spectacle Bled In, Bled Out, que vous pouvez retrouver par ailleurs en intégralité sur Netflix depuis septembre dernier, plusieurs années après sa mort. Donc voilà, c'est un rare cas de comédien qui continue à jouer alors qu'il n'est plus vivant, mais on peut dire que, je sais pas ce que vous en pensez, c'est au moins un modèle de reconversion professionnelle tout à fait réussie.
Joli deal pour Netflix, hein. Joli
deal pour Netflix et clairement un moyen de s'ouvrir le marché nord-africain, où Monsieur Bouteflika n'a jamais été aussi populaire que depuis qu'il est décédé.
Depuis la décentralisation du Minitel.
Ah oui, alors là par contre, oui, on rappelle que l'Algérie est un pays qui continue à utiliser le Minitel. Voilà au moins un échange culturel de qualité et un produit, un fleuron technologique que le monde nous envie et nous achète.
Tant qu'on parlait politique, oui. Pourrait rebondir pour vous parler des petits souverains. Vous avez entendu parler
c'est le jeu encore du PR, une fois. C'est ça ? Ah non, c'est un dessin
c'est
animé.
Pas avec leur budget parlementaire, cette fois, ils voudraient lancer un dessin animé pour sensibiliser les plus jeunes aux dangers de la mondialisation. Et donc, on n'a pas encore beaucoup d'informations sur le contenu des petits souverains. Par contre, on sait qu'ils ont contacté les studios Belle Image, ceux qui ont fait les deux dernières adaptations en dessin animé du jeu de plateforme Bubsy.
Ah oui, un grand jeu dans la Terre 2.
Grande qualité.
Ouais. Oui, donc je crois que ça s'appelait Bubsy Eurofun et Bubsy Fluodyssey. Et par contre, donc le studio a refusé parce que selon eux, l'UPR était incompatible avec les valeurs de Bubsy. Bubsy étant un personnage profondément attaché à l'idée européenne et un exemple d'ouverture et de modernité pour la jeunesse.
Eh bien oui, on rappelle que Bubsy, depuis plusieurs années, un t-shirt européen à la place de son t-shirt avec un point d'exclamation. On rappelle que ce n'est pas la première fois que des mascottes sont dévoyées pour des buts politiques, hein, puisque Mario a servi de mascotte au Parti Socialiste dans plusieurs pays, même si encore une fois, c'est bien la preuve de la stratégie de l'échec du Parti Socialiste dans de nombreux pays, puisque Mario est totalement tombé en désuétude dans la Terre 2, comme nous l'avions rappelé la dernière fois. Je voudrais enchaîner en parlant d'un roman pressenti pour le Goncourt, Bunyan Quincy Butler Châteauvert, donc avec son roman Esclave des manches poussières sur des domestiques esclaves de familles incestueuses dans des ex-villes industrielles abandonnées sur un archipel en Norvège dans les années 70, qui a d'ores et déjà été élu livre du millénaire par le Masque et la Plume. Donc là on est vraiment dans la haute culture. On rappelle que un petit peu comme la Palme d'Or de l'an dernier, ce livre est pressenti à tous ses prix alors que personne ne l'a encore lu.
Je pense que j'ai précommandé le workprint. Évidemment,
c'est la moindre des choses. Hein,
sans coupe, ouais. Sans correction ni rien. Je pense même que j'essaierai de me précommander la version manuscrit.
Ah oui, Bunyan Quincy Butler Châteauvert, de toute façon, n'écrivant qu'en manuscrit, on rappelle que de toute façon, chaque livre vaut environ 2 400 €, puisque c'est intégralement lui qui calligraphie chaque page. Hein, voilà, donc c'est un petit peu comme une toile de maître, en fait. Hein. Chaque exemplaire de Esclave des manches poussières est une œuvre unique.
est-ce que c'est pas un problème pour les personnes qui ont du mal à lire l'écriture cursive ?
Eh bien, probablement, mais à cette question sur un Ask Me Anything, Bunyan Quincy Butler Châteauvert a répondu « Je m'en fous complètement ». Ambroise, tu voulais nous parler des chroniques de la Terre 1 ?
Oui, j'ai découvert ça en baladant un peu, et je trouve ça un peu scandaleux qu'on se moque un peu d'une dimension entière en prenant des extraits comme ça hors de leur contexte. Donc voilà, ça s'appelle « Les chroniques de la Terre 1 », et c'est un podcast qui est animé par une personne qui s'appelle Lisa McLass.
Ah oui, ça me
dit
quelque chose.
Ouais, c'est une personne un peu conservatrice, je crois qu'elle travaille la censure des livres ou quelque chose comme ça. Sa dernière émission, je crois que c'était quand David Douillet était ministre, et elle parle de Brise de Nice, des lapins crétins, tout ça, toutes les choses les plus un peu ridicules de la Terre 1.
Oui, elle est mignon.
Je sais pas ce que vous en pensez du concept.
Bah, alors moi j'en pense que je la trouve, bon, je suis pas très fan du concept, parce qu'effectivement j'ai entendu des extraits, il y a un côté un petit peu rigide, un peu pète sec et un peu conservateur dans la formule qui moi ne me plaît pas beaucoup. Néanmoins je la trouve pas assez dure par rapport à quand David Douillet était ministre. Parce que, anecdote, hein, moi quand dans la vraie Terre 1, dans la nôtre, David Douillet ça a été mon député pendant longtemps. Et c'est quelque chose que je ne souhaite à personne. Deuxième ou troisième circonscription des Yvelines, voilà. Donc je passais tous les jours devant un portrait de David Douillet pendant les élections qui n'a pas été enlevé après. C'est-à-dire qu'après les élections, il continuait à mettre, enfin ses couleurs d'affiche continuaient à mettre la gueule de David Douillet sur les panneaux, sur les murs. Donc j'avais l'impression que d'être dans une ville gérée par Big Brother et que Big Brother c'était David Douillet. Donc voilà, c'est quelque chose que je ne souhaite à personne. Donc Lisa McLave dans son excellent podcast Les Chroniques de la Terre 1, elle est peut-être certes un peu pète sec, mais moi je l'encourage à être encore plus méchante avec David Douillet. On n'est jamais assez méchant avec David Douillet. Enfin, je n'irai pas lui dire en face non plus. Hein, mais nouvel arrêté pris par le CNC, Nicolas.
Donc oui, effectivement, nouvel arrêté pris par le Centre National de la Photographie. Bande annonce de films avant les projections seront désormais remplacées par des vidéos de chatons trouvés aléatoirement sur le dark web. Les monteurs de bande annonce sont d'ores et déjà en grève. 43 minutes qui leur sont accordées chaque jour sur les chaînes de télé et du sud de la France ne leur suffisent visiblement pas.
Je suis un peu triste que le CNC ait pris cet arrêté. En même temps, ils avaient pris il y a quelques années un arrêté que moi je trouvais intéressant. C'était d'interdire aux comédies françaises de produire des bandes-annonces qui racontaient le film avec toutes les scènes dans l'ordre. Donc voilà, bon, des fois ils se plantent et des fois on peut dire que quand même ça va dans le bon sens. Là, c'est plutôt une nouvelle inquiétante néanmoins.
Il y a pas mal de gens qui réclament la fin des méta bandes-annonces divisées en plusieurs parties qui interviennent dans d'autres bandes-annonces de films.
Oui, tout à fait.
Justice League a fait ça dans la Terre 2 et a causé pas mal d'AVC en fait chez les gens qui regardaient ça. Ça avait tendance un petit peu, vous savez, comme les épisodes des Pokémon qui créaient des crises d'épilepsie. Là, ça avait plutôt tendance à créer à tuer les gens, en fait, brutalement. Donc effectivement, ils ont plutôt été bien avisés d'interdire ça. Autre chose, alors qui ne sera pas interdite malgré les avis de la Commission européenne, hein, qui n'est absolument pas d'accord avec cette pratique, c'est le jeu Gear Thunders of Thunder Wars, donc qui va sortir à Noël prochain sur la Terre 2. Ce sera le premier jeu entièrement généré de manière aléatoire en sondant les goûts des gens qui gueulent le plus fort sur les forums de jeux vidéo. La version bêta qui vient de sortir n'a pourtant reçu qu'un modeste 61 sur le Metacritic local. Ce n'est cependant pas si mal au regard de son écran titre où toute tentative de lancer une nouvelle partie désinstalle l'OS de votre ordinateur si vous n'avez pas acheté le Season Pass ou si vous n'avez pas dépensé au moins 50€ en précommande de Lootbox. Donc voilà, un nouveau scandale dans le monde du jeu vidéo local, le jeu qui désinstalle votre ordinateur.
C'est plutôt normal de la part des fans de jeux vidéo de la Terre 2 qui sont quand même reconnus comme être des éternels insatisfaits.
Eh bien oui, toute ressemblance avec des joueurs de chez nous serait purement fortuite. Nicolas, puisque je te tiens, tu voulais une dernière news nous parler de retour sur les Quinions.
Les Quinions. C'est en fait une polémique, bah encore une polémique d'insatisfaits, hein, parce qu'en fait, on a découvert récemment que les jeunes de la Terre 2 ne mangeaient plus de mie de pain.
Ils mangent que les croûtes.
Exactement. Du coup, les industriels de l'agroalimentaire se sont penchés sur la question et leur ont créé un pain entièrement fait de croûtes qu'ils ont appelé les Quinions, ce qui fait relativement scandale, visiblement, sur les tables de déjeuner de nos députés qui vont certainement légiférer sur la question.
Eh bien, je serais quand même ravi de pouvoir goûter différentes recettes de quignons, parce que je pense que en alternant les différentes sortes de croûtes, il doit être tout à fait possible de faire quelque chose d'assez acceptable. Et en le disant, je me rends compte que je suis un peu en train d'inventer le croissant trop cuit. Mais,
mais j'ai entendu dire, quand j'étais sur la Terre 2, j'ai vu des affiches pour les rassemblements de prévus pour croûtes debout.
Ah oui, croûtes debout.
Contre
oui.
L'interdiction des croûtes, oui. Et surtout que il y a aussi un autre problème politique, c'est que la plupart des quignons séchés sont utilisés potentiellement comme armes, car ils sont très durs et leur cassure est assez tranchante.
Oui, exact. Alors qu'avec la mie, c'est beaucoup plus compliqué, parce que de la mie en termes d'armes de jet, éventuellement, ça peut juste être un tout petit peu énervant, mais c'est quand même beaucoup moins dangereux que de la croûte, sachant que la croûte a des coins, et les coins, ça peut faire bobo. Je vous propose de clore là cette session de News de la Terre 2 et d'enchaîner de suite avec une musique pour parler au review des œuvres que nous avons regardées lors de notre récent séjour du coup dans la dimension voisine. Ambroise, tu nous as ramené de la musique brésilienne, je crois.
Oui, donc une musique élaborée pendant la dictature militaire qui sera au centre de la fiction dont je vais vous parler juste après. C'est pas super joyeux, mais ça va pas être l'idée d'aujourd'hui.
Ok, alors je vais évidemment me risquer à le prononcer. C'est Geraldo Vandré, jusque là tout va bien, avec Pra Nao Dizer Que Nao Felai Das Flores. Je l'ai probablement extrêmement mal prononcé, n'ayant aucune goutte de sang portugais dans les veines, mais voilà, auquel cas je m'excuse.
Morrer pela pátria e viver sem. passano. Vem com luz embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem com luz embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão, caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição.
Voici dans Calvin Ball, nous allons parler de Os Ventos de Felicidad, une fiction cambroise nous a ramené de la Terre 2. Je te passe tout de suite la parole et tu vas nous parler de ça.
Oui, je voulais vous parler de cette série parce qu'elle m'a vraiment beaucoup ému. Il n'y a pas vraiment de traduction française. Le titre brésilien originel, c'est Os Ventos de Felicidad. Et donc, c'est une telenovela brésilienne qui est inachevée et qui a la particularité d'avoir été réalisée par un groupe de révolutionnaires gramscistes, mais en plein milieu d'une guerre civile face à la dictature militaire. Elle fut diffusée, je crois, 14 semaines sur les chaînes d'État, environ une petite centaine d'épisodes, auxquels on peut ajouter ceux qui ont été retrouvés plus tard dans les décombres après la destruction du studio. Et cette série, on n'en parle pas tant pour le contenu des épisodes que pour l'épopée de sa production et la tragédie de sa fin, prématurée. Parce que si la plupart des œuvres dont on parle dans le Conelrad, ça décrit une fin du monde fictif, tandis que le monde réel, il demeure stable et vivable. Ici, c'est plutôt l'inverse. Bon, je vais faire un petit point d'histoire, comment on arrivait à la création de cette série. À la fin de l'année 1983, alors qu'il y a des guérillas marxistes qui s'enlisent partout ailleurs en Amérique du Sud, face au régime autoritaire souvent soutenu par les États-Unis, hein, on le sait maintenant, il y a un soulèvement soudain dans le sud du Brésil qui prend tout le monde de court. Et donc c'est des militants trotskistes et gramscistes qui prennent rapidement le contrôle de Porto Alegre et Curitiba, donc c'est les principales villes du sud du Brésil, mais aussi par le plus grand du hasard de l'un des studios de télévision utilisés pour les déclarations officielles des officiers militaires, donc bien équipés avec une bonne fréquence de diffusion. Ce qu'il faut savoir, je sais pas si vous avez déjà entendu parler des trotskistes peut-être, mais est-ce que vous avez déjà entendu parler des gramscistes?
Alors absolument pas.
Vaguement, je veux bien un petit tout.
Ça se rapproche aussi de l'idéologie communiste libertaire. Mais ils ont la particularité de, comment dire, d'un point de vue stratégique, de vouloir aussi la victoire du communisme, en plus de la révolution armée, par la révolution culturelle. C'est-à-dire, il faut que, si les gens sont intimement convaincus que le communisme c'est beau, c'est une belle idée, ça va marcher, on n'aura pas besoin d'être aussi brutal. Et donc les guérilleros du sud du Brésil, ils tiennent une assemblée populaire, ils vont décider de produire une série qui mettrait en scène la vie dans une communauté rurale après la Révolution. Voilà, ils veulent plus qu'on les présente juste comme des guerriers, des voyous violents, mais ils veulent montrer un peu le monde pour lequel ils se battent. Et donc, ils écrivent collectivement un script que l'équipe de production va s'engager à respecter quoi qu'il advienne. Donc, la réalisation, elle fut conviée aux camarades travailleurs Mariana Duranti et Thiago Arena, aidés de quelques volontaires. Bon, il va y avoir une petite liste de noms, mais bon, Vous me dites si vous en oubliez quelques-uns plus tard. Hein. Le professeur Shivera, il sera Pépé Kielé, donc ça va être le papy rigolo du village, qui est marié de longue date à la commandante Rivana, jouée par Ariana Madera, qui est une retraitée en grève des tâches ménagères, car elle trouve qu'elle en a déjà trop fait avant la Révolution. Le camarade Diego Churrasco, il va jouer Solo Flore, ça va être le jeune idéaliste qui travaille à la ferme collective, et qui entretient une relation ambiguë avec le séduisant Lula Paz, joué par Rosan Diaz, qui est lui un des volontaires de la mission d'évaluation des besoins. Et la sergente Salgado et la travailleuse Simone Campos, elles vont incarner deux sœurs, les sœurs Duende, Carolina qui gère le dispensaire de la communauté et Andrea qui répare les machines agricoles. Début 1984, les premiers épisodes sont diffusés et c'est un petit succès dans les foyers du Brésil, on va dire non libérés, la plupart du pays quoi, parce que le gouvernement n'arrive pas à brouiller la fréquence. Et la campagne de dénonciation à la police militaire des téléspectateurs qui regardent l'émission, bah, ça va pas trop marcher. Hein. Donc je vais parler un peu maintenant de la série elle-même. Donc voilà, les 8 premières semaines, les combats, ils sont lointains. Et donc les acteurs, ils peuvent jouer avec un vrai enthousiasme des petites scénettes de repas collectifs, de solidarité au travail, ou d'idylle champêtre, dans un monde qui quand même est sans classe ni propriété privée. Et la plupart des épisodes, ils tournent quand même surtout autour d'histoires romantiques assez banales ou de drames quotidiens. Bon, qui sont pas forcément prenants. Oh, le tracteur encore cassé, qu'on va devoir se serrer les coudes, tout ça. Bon, c'est quand même une telenovela à la base. Mais il y a quand même certains épisodes plus politiques. Je crois qu'il y a un épisode entier qui est consacré à la contraception, avec Lula de la commission des besoins qui va reprocher à Carolina de distribuer trop facilement des contraceptifs d'urgence aux femmes de la communauté. Et celle-ci qui lui répondra que chaque enfant non désiré est un contre-révolutionnaire en puissance. Il y a aussi un autre épisode où c'est Andrea qui tombe amoureux lors du bal de la faucille. Et le couple, ils désirent se marier, comme dans l'ancien temps. Bon, il y a encore un fantasme autour du mariage. Mais tout le monde dans le village refuse une telle institution bourgeoise. Mais finalement, la morale de l'histoire, ils se rendent compte que travailler côte à côte dans l'atelier autogéré, ça vaut toutes les cérémonies du monde. Et après, il y en a quelques épisodes qui m'ont quand même bien fait rigoler. Je crois qu'il y en a où il y a un maoïste qui tombe dans un puits. Et tout l'épisode, ils vont débattre est-ce qu'ils le sauvent ou pas.
La fameuse blague du maoïste qui tombe dans un puits.
Mais oui, c'est resté là-bas. Et les semaines 7 et 8, elles sont vraiment particulières. La révolution, elle semble un peu gagner du terrain là-bas au Brésil. Et il y a certaines scènes de liesse dans les rues de la capitale qui sont même réalisées à partir d'images réelles. Et d'ailleurs, on a déjà parlé de ce personnage, c'est lors d'un épisode de... Je crois que c'est l'épisode où il y a le défilé de la 4ème internationale, qu'on voit Arlette Laguiller qui fait un caméo
Arlette.
Lors d'une visite de soutien sur place.
Dans toutes les bonnes séries. Hein.
Elle était plus jeune que dans Les Souchons et moi. Hein.
Ouais.
Les choses, elles commencent à prendre une tournure un peu différente au début de la 9ème semaine. Car il y a les forces gouvernementales qui lancent une grosse contre-attaque sur la région occupée par la guérilla, avec des tirs de mortier, des bombardements, tout ça. Et donc, il y a une des comédiennes, la sergente Salgado, qui s'est remplacée pour quelques épisodes et qui part sur le front avec le monteur Thiago Arena. Mais elle va revenir seule, avec en plus un éclat d'obus sous l'œil. Mais bon, elle va quand même réussir à jouer son rôle le soir même, dans la fameuse scène du grog, où celle où elle aide Pépé Kélé à se remettre de la fête des moissons. Par contre, on sent que le montage des épisodes devient un peu plus aléatoire. Ah, malheureusement, sa blessure à la sergente Salgado, elle commence à s'affecter. Elle est sujette à plusieurs malaises ou des vomissements sur scène. Par exemple, dans la scène de la kermesse de l'école. Et tout sera pas rejoué faute de pellicule. Et les choses vont continuer à empirer. À la 11e semaine, on a le siège de la ville par l'armée qui commence. L'assemblée populaire décide de continuer le tournage malgré tout. Ils se sont engagés à le faire. Donc on a deux autres comédiens, Salo et Rosane, qui se portent volontaires pour la mission de reconnaissance. Malheureusement, ils ne savaient pas qu'entre-temps, il y avait des mines qui avaient été posées. Et ça va forcer la caméraman Duranti à cadrer beaucoup plus haut les épisodes pour le reste de la série. Et en plus, la semaine suivante, il y a Rosane Diaz qui décède de ses blessures la veille de l'épisode intitulé « Les joies de l'été ». Et donc, forcément, durant l'épisode, lors de la scène de danse, il y a son ami qui était peut-être aussi son amant, on suppose, Salo, qui encaisse mal le coup et qui va s'effondrer en larmes, alors qu'il dansait avec un remplaçant de dernière minute. Ensuite, là, on arrive à la... Je vous avais dit qu'il y avait 14 semaines de diffusion. Et donc, on arrive à la 13e semaine, qui commence par un bombardement en napalm lors du tournage de l'épisode Le repos des guerrières. Et donc, on a Pépé Kélé qui prend feu sur scène, alors qu'il apprenait les échecs à son petit-fils. Mariana qui abandonne sa caméra pour éteindre une partie de l'incendie mais se retrouve défigurée. et la commandante Rivanna qui tenait probablement un verre d'alcool ou quelque chose d'inflammable à la main qui perd l'usage de son bras droit. Donc on a le Salo Flores qui se retrouve à être le seul acteur masculin qui encaisse la totalité des rôles d'hommes. Mais il est toujours effondré par la perte de son ami et il va se suicider quelques jours plus tard avec la clé à molette de l'atelier, qui était un accent emblématique de la série. Bon, là, la détermination de l'équipe commence à s'effriter, mais...
Oui, bah, on peut comprendre. Sergente...
Oui, voilà. C'est quand même des gens qui ont vraiment le romantisme révolutionnaire au cœur d'eux, quand même. Et qui ont une grosse détermination. Et la sergente Salgado, elle s'est remise de son traumatisme crânien, elle va faire un discours qu'on retrouve dans le carnet de bord du tournage, qui commence par « Comment pouvons-nous faire vivre la révolution dans nos cœurs si nous n'arrivons même pas à la faire vivre dans un écran télé ?» Et il continue. Les acteurs survivants, ils arrivent à s'abriter à temps lors du second bombardement napalm. Mais par contre, l'incendie détruit la plus grosse partie du décor et le script des 100 épisodes à suivre. Et la sergente, elle va mourir asphyxiée par la fumée en tentant de sauver le script. Et donc, quand la 14e semaine commence, il ne reste que Simone Campos et Ariana Madeira pour jouer l'intégralité des personnages. Tandis que Mariana Durante, malgré ses brûlures et la perte de ses paupières, gère toute seule la réalisation. Les dommages techniques ne permettent plus à ce moment-là de diffuser les épisodes le jour même. Les pellicules sont stockées à l'abri dans l'attente d'un revirement de situation. Et la perte du script oblige à jouer des dialogues approximatifs. Tandis que les scènes de groupe sont filmées en plan très 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 rapproché, vu qu'il n'y a plus que deux comédiennes. Avec suffisamment de pauses pour que les deux actrices puissent changer de déguisement ou désinfecter leurs blessures. Finalement, juste après le tournage de l'émouvant épisode Le pèlerinage de la forêt, où Pepe Kelly et la commandante Rivanna retrouve l'arbre sous lequel ils s'étaient embrassés la première fois avant que la révolution ne commence. Le gouvernement va utiliser des armes chimiques pour mettre fin au combat dans la ville. Et donc les deux comédiennes, qui sont proches d'une ouverture, elles vont voir leurs poumons se dissoudre, tandis que la réalisatrice, elle parvient à s'échapper en portant avec elle la caméra, la pellicule et le carnet de bord. Et donc les derniers épisodes qu'on a retrouvés un peu plus tard, ils cassent un peu la promesse initiale de respect total du script. C'est surtout des plans où on va voir Mariana hurler, insulter le régime fasciste ou les États-Unis, ou bien réciter au hasard des répliques d'anciens épisodes, et dans un sous-sol d'immeuble où il y a du plafond qui s'effondre un peu plus à chaque fois. Et voilà, la telenovela Les Vents du Bonheur, Os Ventos de Felicidade, elle va prendre fin lors de la 17e semaine de production, après 98 épisodes Bon Enfant, dans une joie post-révolutionnaire, et il n'y a aucune suite qui a été annoncée.
Eh ben dis donc, je peux dire que j'ai connu des projets qui se passaient de manière difficile, mais alors quelque chose d'aussi ardu à monter que cette série, je dirais que ça me fait relativiser sur les fois où je me plains.
Carrément, ouais. Effectivement, c'est autant une série qu'une archive en fin de compte.
C'est un témoignage vivant en train de s'effondrer sur lui-même d'une page de l'histoire. Quoi.
Ah, c'est ça, effectivement, ouais.
Et oui. Et c'est vraiment assez touchant de voir les acteurs qui, couverts de blessures, tenter de faire vivre le village de leurs rêves alors que le monde autour est en flammes.
Et bien, on recommande à tout le monde de prendre une machine à voyager entre les dimensions pour assister... Est-ce que ça existe en DVD sur la Terre 2, Os Ventos de Felicidad?
Les 14 premières semaines sont assez dures à trouver. Par contre, il n'y a que des sous-titres espagnols, portugais ou vietnamiens.
Ouais, bon, ça c'est pas grave, on va les ramener sur notre planète à nous et puis on fera faire ça par des Russes qui sous-titreront mal dans toutes les langues de l'humanité. Comme ça, si aujourd'hui on peut trouver des Ozomatsusan en grec, on pourra trouver des Ventos de Felicidad en français.
Oui.
Sinon ça passera.
Oui, c'est grâce à ça que j'ai réussi à avoir autant d'informations. Hein.
Oui, j'imagine bien.
Il y a l'interview de quelques personnes qui ont joué au début et qui ont pris la fuite après, tout ça.
Eh bien, écoute...
Ça mériterait presque un documentaire, j'avais envie de dire, un documentaire de la Terre 1 sur la série de Terre 2.
Eh bien, ouais, tout à fait. Quand nous aurons vraiment beaucoup plus de moyens dans Calvin Ball, nous nous y attellerons avec grand plaisir.
Après, j'ai peur que s'ils annoncent un reboot ou un remake, ça puisse être mal accueilli quand même.
Ouais.
C'est-à-dire s'il faut retuer tout le casting d'une deuxième série pour réussir à retrouver la dynamique de la première, je pense qu'on trouvera pas tant d'acteurs volontaires que ça. Et s'il faut refaire de vrais bombardements au napalm et à l'arme chimique, j'avoue que je le soutiens pas sur Kickstarter, hein, le projet. Bon, eh bien, sur ce, okay. Je vous propose qu'on passe à quelque chose d'un peu moins sombre, puisque là, c'était quand même une série, finalement, qui commence dans la joie et qui finit un petit peu dans la tristesse. Je vous propose qu'on s'écoute une chanson des années 50 à la gloire du sénateur McCarthy, une chanson des Cavaliers avec K, ça annonce tout le programme, qui s'appelle Get That Communist Joe, puisqu'il faut savoir que dans les années 50, 60 et 70, il y avait tout un pan aux États-Unis de ce qu'on appelle la conservative folk, hein, donc c'est des gens qui font de la musique populaire, mais de droite, voire d'extrême droite. Bon, ça existe toujours un petit peu, même si on a vu qu'il n'y en a pas tant que ça, puisque Donald Trump a quand même eu énormément de mal à faire venir qui que ce soit à son inauguration pour chanter. Donc, voilà, donc je vous propose qu'on s'écoute d'étonnantes harmonies vocales à la gloire de McCarthy et de la chasse aux sorcières anticommunistes avec The Cavalier, Get That Communist Joe. Et on revient juste après pour parler d'une autre fiction de la Terre 2 qui s'appelle Marmalade Rouge, donc un film québécois qui a été tourné en 2015. À tout de suite.
Bubble. Joe, bubble. Come here a minute. Bubble. I got a red hot tip for you, Joe. Bubble. See that guy with the red suspenders bubble. Driving that bubble. Car with bubble. The bright red bubble. Fenders. I know he's bubble. One of those bubble. Heavy spenders. Bubble. Get that bubble. Communist bubble. Joe. He's filling my gal with propaganda, and I'm scared she will meander. Don't wanna take a chance that he'll land her. Get that communist Joe. He's the most revolting character, and the fellas hate him so. But with the girls, this character is a comrade Romeo. Since my love, he's sabotaging, and the law he has been dodging. Give him what he deserves, jailhouse lodging. Get that communist Joe.
Get that small Joe.
He's a most revolting character, and the fellas hate him so. But with the girls, his character is a comrade Romeo. Since my love, he's sabotaging, and the law he has been dodging. Give him what he deserves, jailhouse lodging. Get that communist Joe.
Get that communist Joe. Get that communist Joe.
Notre deuxième fiction de la Terre 2 du jour. Alors c'est un film que les Français de là-bas doivent connaître sous son horrible titre local qui s'appelle Mon voisin le Popoff. Titre qui n'a pas manqué de faire polémique, hein, mais ce n'est pas du tout le titre original de ce film. Alors son titre international est des fois connu parce qu'il y a certaines éditions DVD que vous pouvez trouver dans le commerce là-bas où ce film s'appelle tout simplement Red Cheese, puisque c'est fromage rouge, puisque c'est sous ce titre-là qu'il est sorti aux États-Unis. Mais son véritable titre, c'est Marmalade Rouge, hein, donc confiture rouge si on traduit en québécois, puisque c'est un film québécois, donc avec Normand Damour, un grand acteur québécois dans notre terre, comme dans la Terre 2, et Franck Dubosc, qui est tout aussi connu là-bas qu'ici. Parce que c'est plus simple comme ça. Donc c'est un film de Xavier Donald, hein, un des grands réalisateurs de la Goldie Company, qui est sorti en 2015 au Québec et qui a été un énorme four critique et commercial là-bas. Mais le budget du film a été totalement sauvé par son énorme succès en France. Voilà, donc c'est à la fois un film qui est détesté dans sa terre natale et qui est adulé dans la nôtre. Donc pour vous poser un petit peu le contexte de Marmalade Rouge, il faut parler un petit peu de l'histoire canadienne locale, hein, l'histoire canadienne de la Terre 2, puisque en 1978 au Canada, là-bas, il y a eu une révolution qui a tourné en guerre civile et qui a transformé le Québec en dictature soviétique, parce que faute de combattants, toutes les différents partis politiques s'étant mutuellement annihilés, il ne restait que le minuscule parti soviétique québécois pour prendre le pouvoir, et c'est ce qui s'est passé. Donc l'URSS elle-même ne voulait pas tellement que le Québec devienne une province soviétique, et très rapidement les Russes se sont mis à appeler ce bout de territoire la honte rouge, puisque les Québécois étaient de très mauvais communistes, ils n'avaient pas particulièrement l'âme soviétique, ils étaient fort peu staliniens de nature. Et donc voilà, donc l'URSS a rapidement surnommé ce bout de province la honte rouge et s'en est assez rapidement désintéressé. Et voyant que l'URSS s'en désintéressait, bah, les Américains et le reste du Canada s'en est désintéressé aussi. Donc là arrive du coup une parenthèse d'une quinzaine d'années dans l'histoire québécoise qui a transformé ce territoire en province bizarre et auto-administrée, qui est devenu un nid d'espions qui chacun essayait de refiler le pays aux autres. C'est-à-dire que les Américains essayaient de faire en sorte que ce bout de territoire se rapproche de la Russie, et les Russes disaient non, 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 pas du tout, ce sera le territoire qui marquera la détente, donc ils installaient des ambassades, etc. Donc c'était une sorte de territoire béni du contre-espionnage, donc aucun des deux blocs ne cherchait vraiment à conserver ce leadership. Puis en 1989, il y a eu la chute du bloc communiste, hein, comme chez nous, et c'est une période que tous les Québécois cherchent à oublier depuis. Il aura fallu le milieu des années 2000 pour qu'on commence à avoir des fictions populaires qui abordent ces heures vraiment très très sombres de l'histoire locale. Donc là-dessus arrive un projet très prétentieux du réalisateur Xavier Donald, qui est habituellement auteur de mélos très lents et dramatiques comme Bisous à Trois-Rivières, Les Disparus de Montcalm ou encore Poutine et Préjugé. Donc voilà, que des boules, Marmalade Rouge, une tentative assumée de comédie beauf, hein, c'était les mots du réalisateur, afin de parler au plus grand nombre de cette période trouble du Canada soviétique. Donc l'histoire se déroule en 1989, un petit peu avant la chute du régime, et ça nous raconte les péripéties de Reynald, un bon quinquagénaire québécois rouge typique de cette époque. Hein. Il passe ses journées dans son pavillon de banlieue à faire semblant qu'il est plus soviétique que les membres du parti eux-mêmes. Il prépare de la sauce à poutine, mais il rajoute de la vodka à l'intérieur, il se fait des pirochkis au sirop d'érable, il chante les plus grands tubes du poète du régime, le camarade poète Préjean Moussabin, incarné à l'écran par le vénérable Robert Charlebois, hein, qui, dans la vraie vie de la Terre 2, a été un collaborateur du régime soviétique, bien entendu. Cela n'est qu'une façade, hein, parce qu'en réalité, tout ce que veut Reynald, c'est se faire des bons gros barbecues avec de la sauce américaine. Il veut manger des frites bien grasses, il veut se faire des T-bone steaks dans sa piscine de capitaliste. Mais ça, il faut bien entendu qu'il arrive à le cacher aux sbires du régime. Donc un beau jour, il a un nouveau voisin qui pose ses valises de l'autre côté de la palissade, et ce n'est rien d'autre que Bébert le Français. Donc un Français incarné par le sémillant Franck Dubosc. Donc sans aucune idée du contexte politique, hein, Bébert le Français, c'est un chiracien pur jus. D'ailleurs, il va passer tout le film vêtu d'un slip aux couleurs de bleu-blanc-rouge, hein, du drapeau français, avec un chandail, parce que quand même c'est le Québec et il fait froid. Donc c'est un chiracien qui a été attiré par les prix très bas des terrains pendant la crise économique et par une publicité du Parti communiste canadien qui cherchait à attirer de la population et promettait aux Français désireux de s'installer un pays sans bruit et sans odeur, hein, pour donc reprendre les mots de notre cher Jacques. Donc pour lui, ça lui parlait vraiment au cœur, hein, c'est vraiment, ça touchait son petit cocoro d'homme de la middle class de droite des années 80. Donc hélas, en fuyant sa peur de l'étranger, c'est Bébert le Français lui-même qui va se retrouver seul et perdu dans un pays étranger, incapable de s'adapter aux us et coutumes locales. Lui, il est venu avec sa baguette, son pinard, son accordéon, ses photos de Montmartre, son saucisson dès le petit déjeuner. Donc voilà, ça joue vraiment sur les clichés entre le Québec et la France. De temps en temps, son chandail, il change de chandail régulièrement au fur et à mesure du film, prend les motifs un petit peu de marin à la Jean-Paul Gaultier pour bien signaler que c'est la France. Et par-dessus se rajoute plein de gags très 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 malaisants et maladroits à base de culture française, où notamment sa femme, qui est incarnée par Isabelle Adjani, glisse sur des camemberts et se casse les jambes. Donc voilà, ça arrive 4 fois dans le film. Et je vous préviens, c'est la meilleure blague de tout le film. Donc voilà, hein, c'est encore une fois, Xavier Donald voulait faire de la comédie beauf, il a fait de la comédie beauf. Hein. Donc assez rapidement, il y a la jeune commissaire politique locale, hein, la camarade Marceline Bissonnette, qui vient pour essayer de rétablir l'ordre, hein, parce que évidemment, Bébert le Français crée la pagaille dans le quartier. Donc à la suite d'une série de malentendus, elle pense que tous les problèmes de voisinage qui sont causés par Reynald, donc le héros du film, qui a manifestement quelque chose à cacher, mais en fait ce qu'il veut cacher, c'est qu'il est capitaliste. Donc ce dernier fait des pieds et des mains pour cacher qu'il est en réalité un ennemi du régime, et il court partout en gesticulant, en accusant son voisin de tous les maux, en disant « mais c'est Bébert le Français, c'est lui qui crée la pagaille, c'est lui qui fait de la subversion dans le quartier ». Donc Marceline, elle comprend pas bien, parce que c'est un film où les femmes ne sont pas du tout à leur avantage. Donc comme elle est un peu stupide, elle interprète ça comme une forme de parade nuptiale. Elle refuse de flirter néanmoins avec Reynald, ce qui est une différence d'âge, ça la met pas très à l'aise, puis elle veut rester digne et droite dans son rôle de commissaire politique. Donc elle essaye de prouver à Reynald qu'elle est pas du tout intéressée en allant tenter de séduire la femme de Bébert le Français, donc Isabelle Adjani, sur son lit d'hôpital. Sachant que la femme d'Isabelle...
À cause des camemberts ?
Eh bien, oui, en fait, il y a une histoire de camembert, elle est à l'hôpital, effectivement, parce qu'elle s'est cassé le col du fémur à force de glisser sur des camemberts que Bébert le Français laisse traîner absolument partout dans la maison. Donc à la suite de diverses scènes burlesques de shopping où il est question de trouver des cadeaux qui peuvent à la fois plaire à une Française et respecter la ligne orthodoxe du parti soviétique canadien, la camarade commissaire se rend à l'hôpital de Montréal avec à ses trousses l'improbable duo constitué de Bébert le Français et Reynald, le premier souhaitant protéger son couple, le second dissiper le malentendu sur son patriotisme. Donc en chemin, Bébert et Reynald volent une Trabant Bombardier, le fleuron des hybrides motoneige voiture pot de yaourt sans permis de l'époque québéco-communiste. Et ils apprennent à se connaître de motel en motel, de camp de bûcherons de rééducation en barrage hydraulique des jeunesses collectivistes locales. Régent décide finalement de procéder à un récital surprise des plus belles chansons du Québec rouge devant la camarade commissaire, tandis que Bébert le Français prévoit d'en effectuer la première partie sous forme d'un recueil des plus belles chansons d'amour de Yves Duteil et Michel Sardou. Je vous passe les quelques péripéties où nos deux héros se déguisent en infirmières, se font passer pour des enfants atteints de gigantisme pour pouvoir traverser l'hôpital vêtu de couches et de sucettes, et où Robert Charleroi renonce au communisme pour les beaux yeux d'une belle lobbyiste texane membre de la NRA. Toujours est-il que ces deux minutes de film, les deux dernières minutes du film, sont une vaste pantalonnade. Alors que Marceline déclare son amour à Isabelle Adjani et que la radio de propagande de l'hôpital est détournée par deux bébés géants avec des perruques de Michel Sardou, l'intégralité du bâtiment voit son électricité coupée et l'intégralité des couloirs baignés par la lumière rouge d'urgence des groupes électrogènes. Quand tout se rallume, une foule joyeuse a envahi les couloirs et les quatre personnages sont emportés avec eux. Sans aucune autre forme de cinéma, le film s'achève par un fondu au noir indiquant le 2 octobre 1989, quelques jours avant la chute du mur de Berlin, débutait la ben bonne semaine qui verrait, suite à des manifestations populaires dans tout le pays, la réunification du Canada et du Québec et le retour à une situation de mécontentement mutuel où encore aujourd'hui tout le monde se console d'être ben moins niaiseux que les États-Unis. Cette fin choc a bien entendu fait scandale, puisqu'après 2h34 de gags ridicules à base de course-poursuite, de malentendus culturels et de déguisements, on nous fait du Godard incompréhensible. Doté d'un budget de 100 millions de dollars, le film en rapportera moins de 4 en Amérique du Nord. Au bord du suicide, Xavier Donald décidera dans un coup de maître d'effectuer un remontage intégral pour la France. Le film est redoublé en français métropolitain, Franck Dubosc tourne des scènes supplémentaires en remplaçant d'ailleurs Isabelle Adjani qui est coupée au montage et en jouant le rôle d'Isabelle Adjani. Le propos politique est complètement donné, les communistes québécois deviennent des envahisseurs russes, Régent est désormais présenté comme le méchant du film. Cette version d'ailleurs s'achève sur Isabelle Adjani, donc incarnée par Franck Dubosc, retrouvant la capacité de marcher, et malgré ses blessures, quitte Marceline pour du coup rejoindre Franck Dubosc, qui se roule donc une pelle à lui-même à l'écran pendant 3 minutes. Ce final a valu au film des accusations d'homophobie, d'apologie de l'inceste et de propagande pro-clonage, ce qui a vu et les associations LGBT et la Manif pour tous en demander l'interdiction. Néanmoins, le grand public ne s'y trompa pas et fit de Mon voisin le Popoff le plus grand succès de tous les temps pour une comédie étrangère. Sacré Franck Dubosc. Et voilà, c'était ma chronique un petit peu éclairée de Mon voisin le Popoff, aka Marmelade Rouge, aka Red Cheese, un film québécois de 2015. Je ne sais pas si vous l'avez vu et je ne sais pas ce que vous en avez pensé.
Ah si. Si. La scène où Franck Dubosc s'embrasse lui-même, ça marque pas mal de gens, je pense.
Il faut savoir que cette scène, elle est quasiment interdite au Québec, c'est-à-dire qu'elle ne figure dans aucune des éditions locales du film, y compris dans les éditions de Mon voisin de Popoff, où en général, ce film est coupé par les autorités québécoises encore aujourd'hui, parce que voilà, ça rappelle, comme on dit, les heures les plus sombres de leur histoire, ils entendent les bruits de bottes rien qu'à l'évocation de Franck Dubosc, qui se fait un bisou à lui-même.
Rien que la semaine dernière, je suis allé à un concert sur la Terre 2 et il y avait un remix techno basé sur la scène où Isabelle Adjani glisse sur un camembert qui repasse en boucle avec un fond musical.
Ah bah oui, ça faut savoir que dans la Terre 2, c'est un des principaux mèmes, hein, même les gens qui ne connaissent pas Isabelle Adjani Vu que ce film est considéré comme un des plus mauvais films ayant jamais été produit en Amérique du Nord, c'est devenu sur les 4chan et Reddit locaux quand même un mème. Hein. Cette actrice française qui glisse sur des camemberts à longueur de film, c'est devenu une image commune pour illustrer la déprime et la tristesse.
Du coup, je me posais la question, est-ce que Franck Dubosc est un acteur complet, dramatique et comique en faire deux?
Ah oui, c'est une star.
C'est
une star. En fait, il a une grande carrière internationale où il joue dans des drames, dans des films historiques. Il a incarné De Gaulle, il a incarné Churchill, il a incarné la reine d'Angleterre et tout ça à chaque fois à la perfection. Mais par contre, quand il joue en France, bah, c'est le même Franck Dubosc qu'on connaît. Sauf que dans La Terre 2, il s'est vraiment fait contaminer par son personnage. Donc il est vraiment le personnage de camping. Il veut qu'on l'appelle Monsieur Chirac. Il est en slip tout le temps. C'est un petit peu un naufrage là-bas, hein, ce sacré Franck. Ouais. Bon, je vous propose une petite musique. Nicolas, je crois que tu nous as ramené Johnny Dollar.
Yes, Johnny Dollar, qui est un musicien de rockabilly et qui a aussi écrit des protest songs. En fait, il a une histoire horrible, ce mec. On parlait tout à l'heure des groupes qui n'ont pas existé ou des losers, en fin de compte. Quoi.
Oui.
Et Johnny Dollar, en fait, c'est un loser de la musique américaine. Et il a eu quelques succès, mais il a fini alcoolique, il a eu un cancer de la gorge, il est mort dans une indifférence assez totale.
Comme Franck Dubosc.
Il a vendu quelques hits, et c'est exactement ça en fait. C'est un loser qui a fait, qui est surtout connu pour des chansons routières, et qui a pourtant soutenu des mineurs pendant certaines grèves qu'il y a eu aux États-Unis. Il a réussi à faire quand même de la protest song. J'ai choisi Johnny Dollar parce qu'il a fait de la protest song et aussi parce qu'il y a une série qui a commencé il y a très peu de temps aux États-Unis qui s'appelle Tales from the Tourbus, qui est donc une série moitié anime, moitié documentaire qui parle justement de ces losers magnifiques de la musique américaine.
C'est trop bien!
Et ouais, c'est super intéressant. C'est fait par le mec qui a fait Beavis and Butthead.
Ah, c'est encore mieux!
Je donnerai les références après la chanson. Mais ouais, c'est une bonne série.
Tu me confirmes que c'est une série qui existe dans notre univers à nous, hein, qui n'est pas une série de la Terre 2.
Tout à fait. Oui, okay. Ça pourrait être une série de la Terre 2, mais non. Elle okay. Est bien chez nous.
Ok, et ben on s'écoute Johnny Dollar, I've Got to Stay High, et on revient juste après pour parler de Barbara versus The Bomb.
Now I've tried everything to get you off my mind. And every night I get higher than a Georgia pine. But the way that I'm going, I'll soon be on Skid Row. But I've got to stay high so I won't feel so low. I'm the first one to admit that I drink quite a lot. But it helps me to forget the love I haven't got. If I sobered for a minute, my tears would start to flow. So I've got to stay high so I won't feel so low. I've got to stay high to keep from feeling low. I'll drink here till it's closing time, and then I'll get a case to go. Everybody thinks I'm happy, but they just don't know that I've got to stay high to keep from feeling so low. I'm happy, but they just don't know that I've got to stay high to keep from feeling so low.
Et nous revoici, donc je vais pour cette troisième fiction de la Terre 2 du jour passer la parole à Nicolas qui va nous parler de Barbara versus The Bomb.
Yes, donc Barbara versus The Bomb, qui est un film de 81 qui a été produit par George Romero et réalisé par un mec absolument inconnu à l'époque, à qui on a donné sa chance, qui s'appelle Francis Ford Coppola. Puisqu'à l'époque, dans la Terre 2 en tout cas, Roger Corman n'existe pas. Donc il n'y avait personne pour donner sa chance à Francis Ford Coppola. Et donc, il faut revenir sur le succès de La Nuit des morts vivants, parce que La Nuit des morts vivants a existé en Terre 2 également. Sauf que, alors que chez nous, il y a eu un problème de copyright qui fait que le film est libre sur ses droits, n'importe qui peut faire une copie de La Nuit des morts vivants. Il a été méchamment copyrighté en Terre 2, ce qui fait que Georges Romero n'a jamais pu faire de suite parce qu'il s'est fait plus ou moins exproprier sa propre œuvre par ses compatriotes producteurs. Pour se venger de cette chose, ce qu'il a fait, c'est qu'il en a récupéré le personnage principal, Barbara. C'est elle, en fin de compte, qui est devenue une espèce d'héroïne qui l'a propulsée vers d'autres aventures. Donc on a eu droit à Barbara contre les vampires, Barbara contre Frankenstein. Il y a eu un certain nombre d'itérations qui en ont fait, en fin de compte, une espèce d'héroïne complètement badass et blasée, parce qu'en fin de compte, elle a toujours ce souvenir des aventures précédentes, ça reste une constante dans cette espèce de personnage, alors même que, comme pour James Bond sur notre terre à nous, l'actrice pouvait changer. Donc, Barbara vs. The Bomb, c'est le 17e film des aventures de Barbara. Il est sorti donc, comme je disais, en 81, produit par Georges Romero parce qu'il en a eu un peu marre de réaliser les aventures de ce personnage, réalisé par Coppola à qui on a donné sa chance. Et donc, cette héroïne se retrouve ici face à un complot communiste qui vient du Canada et qui n'est pourtant pas initié au niveau du Québec, puisqu'on ne parle pas du Québec.
Non, en Amérique du Nord. Vraiment, c'est tabou encore, même aujourd'hui, c'est compliqué.
Et donc, il y a un groupuscule protestataire qui est issu du Saskatchewan qui a obtenu de l'Union soviétique une bombe H à faire sauter dans une grande ville américaine. C'est un film qui se passe sur un train où Barbara, qui est jouée ici par Adrienne Barbeau, va faire le ménage et bouffer de la poutine parce qu'il n'y a pas de raison. Donc, le principe de Barbara vs. The Bomb, c'est qu'on a de nouveau, on revient aux bases de la série B. Elle est seule contre tous. Là où les précédents films avaient rassemblé autour d'elle une espèce de méga équipe, là, on fait revenir l'héroïne sur le devant de la scène.
Mais il n'y a pas d'éléments fantastiques, surnaturels du tout.
Ça peut l'être, mais c'est pas forcément le cas. En fait, quand on arrive à la fin des années 80, il y a eu une espèce d'épuisement de tout ce qui est un peu fantastique. Et la plupart des monstres sont plus vraiment d'actualité. Comme pour la Terre 1, en fin de compte, les gens ils commencent à être un peu blasés des trucs un peu fantastiques. Le mort-vivant c'est devenu la propriété exclusive des producteurs ennemis de Romero, on peut plus les réutiliser en fait. Et d'ailleurs, le film de mort-vivant est mort de ça. Il est mort d'un contrôle trop restreint, en fait. Tu vas me dire, on aurait pu les remplacer par les morts-vivants du vaudou, hein, qui sont une version assez acceptable des morts-vivants et qui sont extrêmement intéressantes. Mais visiblement, les Américains, qui sont quand même un peu trop centrés sur eux-mêmes, ils vont pas commencer à utiliser ça, quoi. C'est assez trop exotique pour eux. Donc, on a un film qui date des années 80, parce que il faut dire un truc aussi, c'est que dans la Terre 2, il n'y a pas de Carpenter. John Carpenter, il est musicien, il joue avec Eric Serra, il a fait des concerts. Le cinéma, ça l'a jamais intéressé. Il fait de la musique pour le cinéma éventuellement. Il a fait de la musique pour ce film-là, par exemple, parce que tout le monde aime bien le synthétiseur à cette époque-là. Donc, il n'y a pas de Snake Plissken. Barbara, c'est vraiment l'héroïne qui s'est imposée et qui a traversé, en fin de compte, une douzaine d'années comme ça, à l'aise, sans vraiment de copie ou de contrebalance ou quoi que ce soit. Et donc, dans ce film-là, qui est donc, grosso modo, Barbara qui va traverser ce train de la queue à la tête pour récupérer cette bombe et la désamorcer, elle va croiser des ennemis et ça ressemble presque à un jeu vidéo. C'est un prototype, limite un prototype de jeu vidéo. On scrolle, elle scrolle et elle va affronter ses différents ennemis. Évidemment, on est chez produit par Romero, donc il y a quand même une charge politique. On va parler des peuplades du Canada qui se sont fait déposséder. On va parler, parce qu'évidemment, c'est un complot. Il y a des Canadiens, mais il y a aussi des natifs américains qui sont dans le coup pour faire passer la bombe, pour faire passer la frontière et les territoires. On est vraiment sur des thématiques que Romero aime bien dénoncer. Et Barbara elle-même, le personnage, qui est une femme et qui revendique, on va dire, son pouvoir en tant que femme, en étant une héroïne, se prend évidemment des torrents de merde par rapport au mec qu'elle va croiser. Et elle les règle surtout avec son flingue, parce que on est dans un bon gros bis. Et c'est comme ça qu'on règle les problèmes dans un bon gros bis.
Ah bah je suis d'accord.
Et donc, ce film, il a plutôt bien fonctionné, il est trouvable. On trouve très facilement en Terre 2 pour la bonne et simple raison qu'après ça, Georges Romero, qui commencera un peu à en avoir marre, va compter ses billets et va se dire que c'est pas mal comme ça, et il va passer les droits à des gros studios qui vont récupérer le personnage. Il y aura une trilogie qui va suivre, qui s'appellera Barbara Canadian Noir, parce qu'évidemment, il y a toujours cette histoire de continuité, elle n'aura jamais été aussi importante à ce moment-là, et c'est un film qui va avoir un gros succès au box-office. Une trilogie qui va évidemment bien fonctionner, mais qui clôturera définitivement le personnage, parce qu'après ça, les studios ne vont pas vraiment savoir comment réutiliser ce personnage. Il y aura peut-être du reboot, on a parlé pour la série d'Ambroise. On n'en sait rien pour le moment, je sais que la Terre 2 aime bien les reboots aussi, on verra bien. Donc voilà, c'était une série B qui est vraiment pas mal du tout, avec des effets gore qui sont assez spectaculaires pour l'époque. On a de l'action, on a une bonne bande originale qui fait bien le taf. Adrienne Barbeau est une excellente actrice. Après ça, elle aura une grande carrière, toujours dans un peu de l'action, mais elle va se reconvertir en vieillissant sur le côté plutôt dramatique. Et elle gagnera des Oscars, mais ça sera certainement pour la prochaine fiction de Terre 2. On va pas commencer à faire sa carrière.
Elle a notamment joué dans le film. Elle a notamment joué dans le film sur la biographie de Barbara. Ça ne manque pas de sel.
Exactement. C'est plutôt ironique.
Voilà. Barbara par Barbara.
Exactement.
Marion Cotillard, ça ne remet pas. Hein. En Terre 2, elle est dans une profonde dépression, ça te fait voler le rôle par Adrienne Barbeau.
Ah, je peux la comprendre, hein, mais en même temps, je pense que c'est un honneur de se faire voler un rôle par Adrienne Barbeau.
Mais d'ailleurs, il faut noter que dans la Terre 2, Buffy n'est pas le nom préféré donné au chat, c'est Barbara.
Oui. Exactement, c'est ça. À la limite, on pourrait presque dire que la Terre 2 a été plus preste en termes d'héroïne que notre chère bonne vieille Terre 1 pour essayer d'imposer des standards.
En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite à nos voisins là-bas. Parce que chez nous,
carrément,
on en est loin, et je dirais même que j'ai l'impression qu'en tout cas, en ce qui concerne les films d'action, on en est plus loin maintenant que là où on en était dans les années 80.
Oui, c'est ça. À l'heure actuelle, on a en Terre 2 des choses qui peuvent être assez excitantes, puisque il y a des licences de bandes dessinées européennes où on est en train de faire des crossovers avec juste des héroïnes.
À noter néanmoins que par contre l'adaptation avec des vrais acteurs par Hideaki Anno de Adventure Time reste profondément malaisante. Bref, sur ce, je vous propose qu'on se passe une dernière petite musique avec Inti Ilmanti, Canción del Poder Popular. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Oui, c'est une chanson qui date de l'élection de Salvador Allende au Chili. D'actualité, car cette semaine, il y a eu les élections présidentielles et législatives du Chili, et qui colle très bien au contexte de guerre froide quand on connaît la triste histoire de Monsieur Allende.
Ouais, donc on va s'écouter le groupe Inti Ilmanti avec Canción del Poder Popular. Et on se retrouve juste après pour dire au revoir.
Bien diferente, porque hacia juntar. Tenemos la puerta abierta y la unidad popular es para todo el que quiera. Echaremos fuera al yanqui y su lenguaje siniestro. Con la unidad popular ahora somos gobierno,
porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente.
Del poder populaire, et on souhaite aux Chiliens d'aller plutôt vers le mieux que vers les heures sombres de la de 1971. Allende
13.
Quand est-ce qu'il s'est fait assassiner en 73. Donc on leur souhaite d'aller plutôt vers des lendemains qui chantent que vers des lendemains qui pleurent. On va du coup conclure cette émission, mais comme vous savez, on ne conclut jamais un Calvin Ball sans avoir fait quoi ?
Le bilan du jour.
Et le bilan du jour, c'était qu'on était aujourd'hui dans les fictions de la Terre 2, et plus particulièrement celles qui parlaient de la guerre froide, du communisme, de l'espionnage, des séries B des années 80. Et puisque nous avons parlé de tout ça, on va en profiter pour reparler un petit peu du concept de l'émission, qui est que les prochaines émissions seront forcément des émissions avec des thèmes aléatoires qui seront mis dans le petit fez du hasard. Alors pour les anecdotes, hein, je fais anecdote fez, en ce moment, ce n'est pas un fait, c'est une haute forme du hasard. Aujourd'hui, nous ne tirons pas de petits papiers, puisque les travaux dans mon appartement, c'est un feuilleton qui n'en finit jamais, se poursuivent un petit peu. Du coup, il reste quelques cartons, dont le carton qui contient le fez du hasard. Donc pour le moment, le fez du hasard et le dé du destin sont un haute forme. Tout ça, c'est un haute forme. Voilà. Enfin, le dé n'est pas un haute forme. Ce n'est pas très clair ce que je raconte. En tout cas, ce n'est pas grave. On se retrouve dans deux ou trois semaines, je crois. On parlera de visual novel. Et de cinéma vu aléatoirement à la première séance du dimanche matin. Tout ça pour dire que Calvin Ball, ça peut parler de plein de trucs différents, et pour que ça puisse parler d'encore plein de choses différentes, je vous propose de chacun pouvoir rajouter un thème dans le merveilleux haute forme du hasard. Est-ce que vous avez des idées pour aujourd'hui ?
Oui. Si vous êtes déjà allé en Belgique, est-ce que vous connaissez les Bicky Burgers ?
Absolument pas.
C'est un peu le bas du panier de la du fast-food, le Bicky Burger. Très...
D'accord. Écoute,
mais c'est très connu là-bas, avec son packaging arc-en-ciel. Donc moi, j'aimerais proposer un thème qui s'appelle Wiki Burger. En gros, ça serait en utilisant la section une page au hasard de Wikipédia, ça donnerait un thème musical et littéraire pour la prochaine émission.
C'est-à-dire, on va sur Wikipédia. Je vais tenter là.
Par exemple, si le thème Wiki Burger est tiré, voilà, on fait une page au hasard.
Okay.
Par exemple, le Duc III de Bourgogne, et on devra trouver des musiques en rapport avec le Duc III de Bourgogne, et peut-être parler d'un jeu vidéo où on combat le Duc III de Bourgogne s'il existe.
Ok, alors ça va être chaud, mais ouais, allez, je prends. Bah, tu vois, là, typiquement, je viens de faire une page au hasard sur Wikipédia, et il me sort un album des Foo Fighters. Donc l'émission a été une review de cet album des Foo Fighters, Medium Rare. En plus, c'est un disque du Record Store Day, hein, donc un truc qui doit être rare. En plus. Ah, c'est super. Non, j'aime bien ce thème. Du coup, puisque je viens de le tester en direct et qu'il marche, et ben du coup, moi je dis que ça marche. Nicolas, est-ce que tu avais quelque chose à mettre dedans ?
Alors, je n'ai rien à ajouter comme la dernière fois. Je vais passer pour un mec qui a juste pas d'idée, mais en fait, vous trouvez des trucs suffisants et comme il commence à y avoir pas mal de thèmes,
on va laisser
l'émulsion faire et la cuisine se faire.
Eh bien, du coup, je vais ajouter laisse la cuisine se faire. Voilà, je décide que j'ajoute des trucs comme ça. Donc ce sera un thème lié à la cuisine en général. On parlera de cuisine, on parlera de nos recettes préférées.
Ah, trop bien.
On parlera de bouffe, on parlera de choses qui parlent de cuisine. Voilà, donc laisse la cuisine se faire. Et si possible, on cuisinera en direct et on se filmera pendant qu'on le fera. Ne vous inquiétez pas, nous ne le ferons pas. Moi je vais ajouter un thème musical qui sera simplement les afro-songs, les chansons africaines. Voilà, j'avais prévu de le faire. C'est un thème extrêmement banal, hein, il a rien de rigolo, il a rien de marrant, etc. Mais j'ai pas assez de rubriques musicales par rapport à mes rubriques non musicales. Et du coup, pour garder un équilibre, je rajoute une de mes passions qui est la chanson africaine. Voilà, tout simplement. Si vous le voulez bien, on va en rester là pour aujourd'hui. Vous avez assisté du coup à la véritable 6e émission de Calvin Ball, même si vous pouvez toujours accéder à l'émission 6.1 que je ne supprimerai jamais parce que malgré tout ce qui s'est passé, elle reste chère à mon cœur. Calvin Ball est une émission musicale dont la ligne éditoriale est gérée par tirage au sort en fin d'émission et des fois ça cause même pas du tout de musique. L'important c'est que dans Calvin Ball on ne rejoue jamais deux fois la même partie et aujourd'hui la partie nous l'avons jouée avec Framboise et Nicolas. Calvin Ball possède une page Facebook qui s'appelle Calvin Ball Radio, un compte Twitter qui s'appelle Calvin Ball FM. Vous pouvez retrouver toutes les super chouettes dernières informations concernant l'émission. On a également un serveur Discord dont je donne régulièrement l'adresse pour pouvoir chatter avec tous les copains et les copines pour parler de l'émission, pour parler de n'importe quoi. Bientôt, il y aura également un petit WordPress pour rassembler tout ça parce que pour le moment, c'est un peu éparpillé et c'est compliqué à gérer. Vous pouvez vous abonner sur iTunes à l'émission et plus vous mettez d'étoiles et plus il y a de gens qui écoutent l'émission parce que c'est comme ça que ça marche iTunes, même si je ne connais toujours pas ces gens qui vont dans les recommandations de podcasts pour écouter des choses au hasard. Je ne fais littéralement jamais ça. Si vous n'aimez pas iTunes, vous pouvez utiliser n'importe quel système de référencement de podcasts, comme par exemple Podcast Addict. Je n'en connais pas d'autres, mais il y en a certainement d'autres et j'espère que je suis référencé dessus. Vous pouvez simplement, si vous le souhaitez et si vous êtes une vieille personne, compulser la page SoundCloud un petit peu nulle du podcast, ou au moins vous pouvez comme ça voir les merveilleuses pochettes faites sous MS Paint, ce que je fais pour chaque émission. Donc c'était moi Zali qui était là aujourd'hui. La prochaine fois nous revenons aux alentours du 20 décembre, donc un tout petit peu avant Noël, pour vous parler de visual novel et de films d'art et essai que nous aurons été voir spécialement pour l'occasion. On va se quitter avec une dernière musique qui est le générique du film Origin Spirit of the Past, dont je m'étais la référence. Vas-y, tu peux le présenter si tu veux.
Oui, un film d'animation qui m'a marqué, car il avait la particularité d'avoir un générique très touchant, très impressionnant, alors que le reste valait vraiment pas le coup.
Oui, ça avait l'air pas bien.
Et donc c'est le générique de cet animé, la principale chose qui m'a marqué. Et ça parle de fin du monde, de destruction de la Terre, etc.
Donc on reste dans le thème.
Non, c'est d'accord.
Alors, j'ai retrouvé la référence de la chanson, c'est Shuwa Oto with Reflection, et c'est tout simplement Kokia, donc probablement une des personnes, une des chanteuses de J-pop les plus connues au monde, puisque ses albums sont même diffusés en France de manière tout à fait légale sur des assez gros labels de musique du monde. Donc elle a une fort belle voix. Et donc on s'écoute Shuwa Oto with Reflection et on se retrouve dans une vingtaine de jours pour parler de visual novel et de cinéma de quartier. Des bisous, à bientôt.
Salut.
Bisous. Salut. J'avais conçu un système de cuisine aléatoire voici quelques années. Non, c'était un système de plusieurs tableaux d'ingrédients, de sauces, de féculents, avec des dés à X face à lancer et avec des modificateurs de compatibilité selon les types d'ingrédients.
Écoute,
pour déterminer des, je sais plus, ça faisait 3000 recettes.
Ce que tu décris ressemble à peu près à la manière dont je fabrique tous mes projets, pour le meilleur et pour le pire. Parce qu'à la base, hein, Calvin Ball, c'était que ça. C'était, je me suis dit, oh, ils mettent plein de hasard dans un truc.